Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à tous. Eh bien, comme il est long ce mois de mars, eh bien, rassurez-vous, c'est son dernier jour. Nous sommes le vendredi 31 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour tous celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Un accord a été conclu dans l'exercice d'ajustement budgétaire du gouvernement fédéral, mais il a été difficile à trouver. Il y a plusieurs déceptions et de grandes réformes écartées, vous l'entendrez. Une juteuse opération pour une participation de GBL, le groupe Bruxelles-Lambert, va bénéficier du rachat futur de Webhelp, spécialiste des services à la clientèle, par l'américain Concentrix. Nous jetterons aussi un coup d'œil sur les résultats de Spadle, les eaux minérales avec son CEO, et nous échangerons avec le nouveau président de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le Brief.
Le Brief, cette info, dès 7h.
Comme d'habitude, avec pareil exercice, ce fut un long marathon avec ses éclats de voix, ses passes d'armes et ses grandes envolées. Mais finalement, les 7 parties du gouvernement fédéral se sont entendues hier sur un effort budgétaire complémentaire d'1,8 milliard d'euros à l'horizon 2024. 782 millions d'euros en réduction de dépenses, à peu près autant de recettes en plus, et environ 200 millions en mesures diverses. C'est un accord important pour l'état de marche de notre pays qui méritait bien que deux de nos journalistes politiques se penchent dessus pour l'analyser, Mathieu Collein et Quentin Joris. Alors Mathieu, tout d'abord, qui sont les gagnants et les perdants sur les principaux points de cet accord ?
Je dirais que les gagnants, c'est quand même le Premier ministre et sa secrétaire d'État au budget, puisqu'ils ont quand même obtenu un effort budgétaire complémentaire de 0,3 points de PIB, ce qui correspond à la proposition initiale du Premier ministre. Chez les socialistes, ils ont quand même dû faire quelques concessions en matière de pension, puisqu'il y a une partie de l'augmentation de la pension minimum qui devait démarrer en 2024 qui est rabotée, on va dire. Voilà, le MR qui soutenait l'effort budgétaire aussi s'en sort pas si mal, même s'il doit avaler une limitation de la mesure zéro coti qui était chère au gouvernement précédent. Voilà, et peut-être, je dirais, s'il devait y avoir un perdant, c'est peut-être le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, puisque la taxe sur les multinationales, dont le rendement est augmenté à l'occasion de ce conclave, le prive quelque part d'une partie du financement de la réforme fiscale qui, elle, n'a pas encore été négociée.
Car cet accord fait un peu abstraction des grandes réformes que l'on attend des Quentin.
Le gouvernement avait annoncé la couleur avant même le début des travaux budgétaires en disant on ne parlera pas des pensions, on ne parlera pas largement de la fiscalité. C'est une déception, on le savait avant, mais on reste un peu sur notre faim. Ici, on a un ajustement budgétaire, il y a un effort, c'est pas mal, mais les réformes structurelles importantes qu'on nous promet depuis le début de la législature, en l'occurrence celle de la fiscalité et celle des pensions, elles sont toujours en jachère. Il ne reste pas beaucoup de temps au gouvernement fédéral pour les faire atterrir, d'autant qu'on va rentrer dans une période de campagne électorale. On y est déjà en partie, donc ça va être de plus en plus dur d'obtenir des compromis. C'est vraiment, on est dans le money time pour parvenir à quelque chose sur ces deux réformes clés et le gouvernement va vraiment devoir réussir, concrétiser quelque chose là-dessus s'il veut aller avec un bon bilan aux élections.
Mais une réforme, il y en a quand même eu une en marge de ce conclave budgétaire, c'est celle du marché du travail. Un peu légère, il faut le dire. 5 mesures principales ont été adoptées pour favoriser le retour au boulot et approcher la fameuse barre des 80% de taux d'emploi. En dessous des 55 ans, il sera plus difficile de refuser un travail considéré comme convenable. De même, les frontières régionales ou linguistiques ne seront plus un motif valable pour refuser un emploi vacant. Le contrôle des chômeurs sera renforcé pour voir s'ils recherchent effectivement du travail. Et dans la fonction publique, les malades longue durée ne seront plus systématiquement mis à la retraite après 2 ans d'absence. Enfin, dernière mesure, à partir du 1er janvier 2024, les allocations de chômage temporaire seront calculées à un taux de 60% du salaire initial au lieu de 65%. Rien en revanche sur l'idée de sanctionner un chômeur longue durée qui refuserait une formation pour un métier en pénurie. Il ne fallait pas se réjouir trop vite. L'inflation a tendance à ralentir depuis le mois de novembre, mais en mars, cette baisse régulière n'est plus valable. Les prix repartent même un peu à la hausse avec 5 petits points de base à 6,67%. principale cause de cette petite poussée de fièvre, les prix de l'alimentation. L'inflation des produits alimentaires, y compris celle des boissons alcoolisées, dépasse les 17% en mars. Mais plus globalement, ce qui est inquiétant aussi, c'est l'inflation sous-jacente, celle qui ne tient pas compte de l'alimentation non transformée et de l'énergie. Elle reste aussi en hausse, ce qui est le signe qu'elle s'installe durablement dans l'économie. Voilà qui n'augure rien de bon pour la zone euro, dont on attend les chiffres aujourd'hui. Les marchés anticipent une baisse de l'indice global, mais une augmentation de l'inflation sous-jacente. La Banque Centrale Européenne risque bien de ne pas relâcher la pression sur ses taux d'intérêt directeurs de sitôt. En bref, dans l'actualité de la nuit, l'ancien président américain Donald Trump a été appelé à comparaître mardi devant la justice. Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice de film X en 2016 et a été inculpé par un grand jury. C'est un fait sans précédent pour un ancien président américain. Belle tuile pour le spécialiste belge de la santé féminine Mitra. Un de ses fournisseurs, le fabricant pharmaceutique français PCAS, lui réclame 31 millions d'euros de créances impayées. C'est un problème car le partenaire lui apporte l'estétrol, l'œstrogène naturel qui constitue la base du portefeuille de produits de la société liégeoise. PCAS dit qu'il est contraint d'étudier une réduction temporaire d'activité sur son site de production d'estétrol. La couleur avait déjà été annoncée en début d'année, la voici confirmée. La multiplication des remous de ces derniers mois, notamment du côté des sociétés technologiques, a entraîné la chute intrinsèque de la valeur du portefeuille de Sofina de 18% l'année dernière. Il s'établit, selon les dernières évaluations, à 9,3 milliards d'euros. Webhelp, c'est le numéro 1 européen des services à la clientèle. Il gère pour le compte de tiers, des centres d'appel, des services de paiement en ligne ou de gestion de litiges juridiques par exemple. La société française est entrée en négociation exclusive en vue de son rachat par son homologue américain Concentrix, valorisation de la transaction, plus de 4 milliards d'euros. Une belle opération pour le groupe combiné, si tout va bien, qui deviendra leader mondial dans son secteur. Mais c'est surtout une belle transaction pour GBL, le groupe Bruxelles-Lambert, holding belge qui détient actuellement une participation majoritaire dans Webhelp. Bonjour Simon Souris.
Bonjour.
Vous suivez le private equity pour l'écho, décryptez-nous ce deal.
C'est une opération qui est importante pour le holding des familles Frères de Marais. Moins de 4 ans après leur montée à bord, ils réalisent théoriquement, et c'est déjà une plus-value de quasiment 2 fois leur mise initiale. Alors, pour autant, ils ne vont pas quitter le navire. Ils vont recevoir de l'ordre de 13% du nouveau groupe combiné à voir le jour. Et au passage, eh bien, 2 ans après la finalisation de la transaction, ils devraient toucher 1,5 milliard d'euros. Mais il faut bien comprendre qu'ici, le groupe va pouvoir tirer parti d'une présence mondiale sur lequel ils vont pouvoir adresser pas mal de thématiques essentielles pour les entreprises, que ce soit la gestion de litiges juridiques, que ce soit même la gestion des réseaux sociaux, que ce soit la gestion des centres d'appel, tous des éléments qui sont évidemment importants par rapport à l'image qu'on veut renvoyer au niveau de la clientèle.
Cela fait plus de 9 mois qu'on n'a pas vu d'introduction à la bourse de Bruxelles. La dernière en date, c'était en juin, avec le groupe Démé, le spécialiste du dragage. Et cela risque de ne pas s'améliorer dans les semaines et les mois qui viennent. C'est morne plaine un peu partout dans le monde. D'après les derniers chiffres trimestriels d'EY, seuls un peu plus de 21 milliards d'euros ont été levés depuis début janvier sur les marchés mondiaux par des IPO, ce qui représente 60% de moins que l'année dernière sur la même période, et 2022 ce n'était déjà pas bon. Pour en revenir à aujourd'hui, on a donc connu depuis le début de l'année près de 300 IPO dans le monde. La plus importante, c'est au Moyen-Orient, dans le secteur de l'énergie, avec l'introduction de la Compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi pour plus de 2,5 milliards de dollars. Autant des résultats, voyons ceux à présent du groupe d'eau minérale Spadl. L'entreprise wallonne affiche un chiffre d'affaires record pour l'année dernière, plus de 320 millions d'euros, mais un bénéfice net en baisse réduit de moitié à moins de 13 millions d'euros seulement. C'est l'augmentation des coûts qui pèse évidemment sur la marge, une augmentation des coûts que Spadl n'a pas répercuté entièrement sur ses clients, les consommateurs, tout en maintenant ses investissements. Marc Dubois, CEO de Spadl.
C'est pas parce que 2022 est une année compliquée d'un point de vue coût matières premières que l'entreprise a décidé d'arrêter ses investissements, que du contraire, on est toujours avec des niveaux d'investissement importants de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires qui varie entre 17 et 20 millions d'euros.
Cependant, cette année, l'augmentation de la TVA sur les boissons risque de faire mal.
Ce qui est intéressant à signaler, c'est l'empreinte fiscale de Spadel en Belgique. Nous payons sur base annuelle 32 millions d'euros. On connaît le différentiel de prix entre un six-pack d'eau en Belgique et un six-pack d'eau en France, de l'ordre d'un bon euro. Si le gouvernement continue à taxer le secteur comme il le fait, hein, le secteur en Belgique des eaux et des boissons rafraîchissantes paie sur base annuelle 800 millions d'euros. Donc on est un tout petit peu fatigué de voir la pression fiscale qui est mise sur ce secteur. Et on est conscient que tout ce qui est acheté à l'étranger n'est pas acheté en Belgique. Environ une perte de revenus pour les producteurs de l'ordre de 100 millions d'euros, mais surtout une perte de recettes fiscales pour le gouvernement belge de l'ordre de 50 à 55 millions d'euros. Donc, ça commence à faire beaucoup.
À partir d'aujourd'hui, 31 mars, la FEB, la Fédération patronale, a un nouveau président. René Branders, à la tête d'une PME d'une cinquantaine de personnes à Tubize, spécialisé dans la fabrique de lignes de production sur mesure pour la métallurgie. Il prend la succession de Bart De Smet, président du conseil d'administration d'AGEAS. Changement de profil donc pour autant de défis en cette période mouvementée pour l'économie. René Branders a l'habitude d'être aux responsabilités. C'est l'ancien président d'Agoria, la Fédération des entreprises technologiques. Il se confie à notre journaliste Corentin Di Prima.
C'est une responsabilité que nous devons prendre aujourd'hui dans des temps qui sont plus incertains et de questionnement, d'affirmer et de confirmer également des projets d'avenir.
Le nouveau président de la FEB deviendra aussi celui du groupe des 10, le noyau de la concertation sociale en Belgique. Là encore, il envisage son rôle de manière constructive.
Mais le groupe des 10, c'est comme 10 doigts. Quand vous avez deux mains, vous savez soulever une charge, vous savez prendre un projet en main. Et c'est justement ce projet, cette vision, je dirais, long-termiste que nous devons remonter avec un message fort, positif, constructif, parce que toutes les parties ont un rôle à jouer. Ensemble, de nouveau revenir dans un dialogue serein, positif, visionnaire, dans lequel nous aurons des éclairages probablement différents, mais un projet de société et de vision commune pour le bien de notre société civile, pour le bien de nos entreprises, pour le bien de la force et de la raison d'exister de la Belgique au sein même de l'Europe. Voilà ce que j'attends en fait de ce beau fonctionnement du groupe des 10.
De bien beaux objectifs qui seront évalués à l'épreuve du temps. Il est temps justement pour moi de vous laisser et vous souhaiter une agréable journée. Ce brief a été préparé par Laurent Fabry. Très bon week-end à vous et attention aux poissons volants demain. Toute l'équipe du brief vous retrouve lundi.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.